Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Point d'autre que toi. Pas d'autre Dieu. Pas d'autre Créateur. Pas d'autre Père. Pas d'autre Seigneur, pas d'autre Roi que toi, Seigneur. C'est toi qui subsistes de toute éternité, et après le temps, l'éternité, tu régneras. Dans le temps, Seigneur, cette parenthèse entre deux éternités, dans le temps, Seigneur, tu as accepté de t'abaisser jusqu'à nous. Toi le Créateur, toi le Dieu puissant, toi le chef de toute vie, tu as accepté de mourir pour nous afin de nous racheter, nous rebelles. Comment puis-je comprendre cela? Seigneur, tu as mis à part un temps, des années, des siècles, entre deux éternités, pour te choisir un peuple. Un peuple d'abord qui fut le peuple d'Israël. Et à travers lui, un peuple nouveau qui était racheté par le sang de Christ, du Sauveur, du Seigneur. Tu as voulu sortir de ce monde des hommes et des femmes qui libérément ont choisi pour toi, avec une libre volonté, ont voulu et ont décidé de marcher avec toi et pour toi, et de te choisir plus que ton ennemi, et de t'aimer, afin de les faire héritiers avec toi de l'éternité. Bientôt, tu nous sortiras du temps pour nous mettre dans l'éternité. Ô Seigneur, nous voyons tout cela, nous pouvons en parler, Seigneur, mais l'expliquer. Que de pourquoi, Seigneur? Et quand nous serons devant toi, nous dirons, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu nous as créés être de chair, de vanité? Pourquoi tu nous as tant aimés malgré notre rébellion? Pourquoi, Seigneur, tu nous donnes l'héritage de la vie éternelle? Seigneur, nous te disons merci et nous te reconnaissons comme étant le seul Dieu, le seul Sauveur, le seul Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Tous les autres ne sont que des fabriqués. Tous les autres ne sont que des idoles. Tous les autres ne peuvent créer, ne peuvent donner la vie éternelle. Tous les autres ne sont que des mensonges ou des démons déguisés. Nous avons choisi de te servir, toi et toi seul. Ô Seigneur, souviens-toi, tu as un peuple à toi ici au Congo. Et ce peuple n'est pas fini de s'agrandir. Tu les connais à travers toute cette nation, Seigneur, ceux qui sont lavés par le sang de Golgotha. Merci Père, et parle encore à ton peuple ce matin, nous t'en prions. Parle-lui afin qu'il connaisse ta volonté et que d'autres puissent être rachetés, sauvés, transformés, si seulement ils t'acceptent tel que tu es. Merci. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 8e commandement. Au 8e commandement que nous devrions aussi prêcher très fort dans ce temps où nous avons oublié. Oublier, quoi que chrétien, quoi que nous disons que nous sommes chrétiens, nous avons oublié et jeté loin derrière nous ce commandement. Pendant 3 dimanches, nous avons parlé sur le 7e, tu ne commettras point d'adultère, et je suis sûr qu'on ne l'a pas épuisé. Et nous avons vu différents aspects de cette façon de commettre adultère. Quoi qu'il y ait des hommes qui disent aujourd'hui, il est impossible à un homme de ne jamais commettre adultère. Il paraît que même, il y aurait un pasteur qui aurait dit cela. Pauvre homme. Pauvre homme. Donc, il y a des lourds soupçons sur lui-même. Nous ne sommes pas obligés de marcher dans la pourriture et dans la magouille. Nous ne sommes pas obligés de marcher dans les conceptions sataniques et diaboliques tel que Satan l'a voulu et le veut. Non, nous ne sommes pas du tout obligés. Bien sûr, ce sera une lutte. Bien sûr, ce sera un combat. Bien sûr, ce sera une difficulté. Bien sûr, nous devrons ramer contre le courant. Bien sûr que nous n'aurons pas la popularité. Bien sûr. Peu importe, frères et sœurs, nous ne sommes que des voyageurs et des passagers. Qu'a-t-il dit? À celui qui vaincra, je te donnerai la couronne de la vie. Donc il y a combat. Il y a combat. Et on ne peut pas forcément être d'accord avec tout le monde. On ne peut pas forcément suivre la foule comme des moutons. Non! C'est plus facile de se laisser aller, de se laisser porter. Mais la direction où ils vont, c'est la perdition éternelle. Alors, soyons des hommes et des femmes de caractère pour réagir. Et sachant que si nous avons été dans la boue autrefois, il veut nous sortir de la boue et faire de nous de nouvelles créatures, changées, transformées par sa puissance et par sa grâce. Oh, je sais, je ne fais que d'effleurer ces sujets. Frères et sœurs, nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, c'est tout. Ils n'ont pas aimé les prophètes du temps passé. Ils n'ont pas aimé ceux qui leur annonçaient les calamités qui viendraient s'ils ne se repentaient pas. Ils préféraient ceux qui disaient « Continuez tel que vous êtes, Dieu va vous accepter quand même, continuez, peu importe, Dieu est un Dieu d'amour et vous finirez bien par être sauvés. » C'est pas si grave, en tout cas nous sommes des hommes de chair, et la chair est faible, et nous ne sommes pas des anges. Oui, mais Dieu nous appelle à être des anges, et plus que des anges. Quel genre de prophète allez-vous écouter? Des racontards qui cherchent à défendre leurs propres péchés et leurs propres iniquités, sous des arguments non valables et en tordant la parole de Dieu. Quel genre de prophète allez-vous écouter? Ceux qui proclament un évangile falsifié, qui proclament un évangile tordu, qui prennent qu'une partie de la parole de Dieu, en ignorant le reste. Quel genre de prophète allez-vous écouter? Ceux qui se prétendent prophètes, ou ceux qui s'ignorent eux-mêmes, mais qui ne désirent de faire qu'une chose, dire ce que Dieu dit. Frères et sœurs, personne d'entre nous, nous ne prétendons être des prophètes, être des hommes qui avons reçu une révélation spéciale, être des hommes spéciaux, spéciaux, spéciaux. Tout ce que nous pouvons dire, et nous le crions bien fort, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, auxquels Dieu a confié un message. Et ce message, nous le porterons, nous le prêcherons. Nous ne nous inquiétons pas de savoir ce que nous sommes, parce que nous le savons déjà. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et sans la grâce de Dieu, qui pourrait se tenir aujourd'hui dans cette salle ou sur cette plateforme? Qui? Oh Dieu, nous avons besoin de ta grâce et de ta compassion. Nous avons besoin que tu nous gardes dans ta main dans les temps difficiles que nous vivons, où tant de doctrines contradictoires parcourent nos rues, où tant de pseudo-prophètes, de pseudo-pasteurs, de pseudo-évangélistes racontent et parlent, peu importe. Dieu, tu connais ceux qui sont vrais et tu connais ceux qui ne sont pas vrais. C'est tout. Loin de moi de vouloir juger qui que ce soit. Mais à moi appartient de remettre tout jugement à celui qui connaît le cœur des hommes. Prenons garde à nous-mêmes, car nous nous tiendrons devant le grand juge un jour qui que nous soyons. À plus forte raison, nous qui prêchons la parole de Dieu, serons-nous jugés plus sévèrement, avec plus de rigueur. Le 8e commandement, au verset 15 du chapitre 20 d'Exode. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas de vol. Dans Jean chapitre 10, verset 1, Jésus disait ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte. D'autre part, qu'a-t-il dit encore? Je suis la porte. Autrement dit, celui qui veut entrer dans la bergerie et qui n'entre pas par Jésus, est entré par Jésus, c'est-à-dire le reconnaître comme Seigneur et comme Sauveur et comme Roi dans sa vie, c'est-à-dire se repentir et s'humilier. Celui qui ne rentre pas par la porte dans la bergerie, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu, de ceux qui ont été lavés de leur péché, qui ont été sanctifiés, qui ont été changés par la grâce et par la puissance de Dieu. Ils font partie de la bergerie de son troupeau. Mais ceux qui cherchent à rentrer dans sa bergerie, dans son troupeau, ailleurs que par la porte, sans passer par la porte, sans passer par le chemin qu'il a lui-même ouvert, ce sont des voleurs et des bandits. Vous savez, et vous connaissez bien ces gens qui viennent dimanche après dimanche et qui viennent écouter le sermon ou les chants et les cantiques. Noé s'en chante si bien, la chorale s'en chante si bien, l'orchestre chante si bien, on se sent bien là et on vient dimanche après dimanche et plus ou moins on s'imagine qu'on appartient au troupeau alors qu'on n'a pas passé par la porte. Pour passer par la porte, il faut passer par la repentance. Il veut rentrer par ailleurs, par les sentiments, par ce qu'ils aiment entendre, ce qu'ils aiment voir, mais sans changer de vie. Il s'incruste sur les bancs, il s'incruste sur les chaises, et ils font croire qu'ils sont des bons chrétiens, et ils font croire qu'ils sont des gens membre de la borne. Aïe, 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 aïe. C'est pas ça qui vous ouvre la porte des cieux. Vous pouvez être membre de la borne et même avoir votre corps de membre et même être baptisé par immersion. Mais ce n'est pas ça qui vous ouvre la porte des cieux. Êtes-vous rentré par la porte dans la bergerie? Pour faire partie de la bergerie, il faut rentrer par la porte. Et si nous ne rentrons pas par la porte, et que nous rentrons par ailleurs, nous sommes des voleurs et des brigands. Voilà ce que dit Jésus. Vous voulez voler les bénédictions. Vous voulez voler la grâce de Dieu. Vous voulez voler la réponse à vos prières. Vous voulez avoir les bénéfices de ceux qui sont là et qui ont passé par la porte. Vous voulez avoir les bénéfices spirituels. Et il se passe quelque chose en vous, et vous êtes heureux, parce que vous sentez que cette bénédiction est là, et vous êtes heureux, mais vous n'avez jamais mis votre vie en règle, jamais. Vous vous êtes humilié au pied de la croix, et vous avez demandé pardon pour vos péchés, jamais. Alors vous voulez avoir les bénéfices, vous voulez avoir les guérisons. Priez pour moi, pasteur, je suis malade. Priez pour moi parce que voilà, il y a ça qui va pas à la maison. Mon travail ne marche pas. Priez pour moi parce que je peux pas enfanter. Priez pour moi. Eh oui, priez pour moi. Bien sûr, les promesses sont pour vous. Mais vous, qu'avez-vous fait? Êtes-vous rentré par la porte? Vous voulez être dans la bergerie. Mais rentrez par la porte. Que dire alors des voleurs de brebis? Aujourd'hui, il y en a beaucoup de voleurs de brebis. De ces gens qui veulent commencer une église en volant les brebis des autres. Vous connaissez ça? Ils vont visiter, surtout ceux qui voient qu'ils ont quelques qualités, ou quelques moyens, ou quelques influences. Pour les flatter, on vous donnera une place, vous aurez une place. On a besoin de vous, de vos capacités, de votre savoir-faire dans la musique, dans ceci, dans cela, et que sais-je? Voleurs de brebis! Attention, mes frères. On ne se moque pas de Dieu. Si une brebis veut partir par elle-même, c'est triste. Il y en a qui sont comme cela. Ils veulent partir par eux-mêmes, ils vont manger partout, parce que derrière la barrière, l'herbe est meilleure que là, de ce côté. Vous connaissez ça? L'herbe qui est juste derrière la barrière, là, elle est meilleure que celle qui est ici. Alors, on fait tout son possible pour aller derrière la barrière. Et puis alors, on attrape des indigestions de tout genre. et on commence à vomir. Alors on va voir un autre prophète, un autre homme ouin. Pourquoi? Parce que celui-ci où je vais n'est pas ouin. Ah bon, c'est quoi l'onction? Est-ce que tu le sais? C'est de crier, c'est ça? L'onction. C'est se rouler par terre, l'onction. C'est de chanter pendant des heures en criant, c'est ça l'onction? Ou en se secouant, c'est ça l'onction? C'est bien plus que cela! Je sais très bien que quand l'Esprit descend sur qui que ce soit, il y a une manifestation physique. Pourquoi? Parce que l'homme est un esprit, une âme, un corps absolument uni. Ce qui passe dans l'esprit, il y a une manifestation dans le corps. Il pleure, il chante, que sais-je encore? Je sais cela! Mais on ne peut pas manipuler et fabriquer ces choses! L'onction, elle est là ou elle n'est pas là! Ne soyons pas des gens stupides, mais réfléchissons à la lumière de la parole de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur pour l'onction de sa parole. Je bénis le Seigneur pour la puissance de cette parole qui pénètre dans les cœurs. Je bénis le Seigneur pour la transformation qu'il opère dans les âmes. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et je désire qu'il fasse plus, plus encore. Mais loin de moi de vouloir manipuler l'onction et de la fabriquer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Voilà pourquoi je suis venu. Que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le voleur ne vient que pour voler. Bien souvent, les voleurs qui volent sont prêts à tuer aussi. Vol, criminel, bien souvent ça fait c'est même père, même mère. Le voleur est venu que pour tuer, pour voler et pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Es-tu du troupeau auquel il est promis d'avoir la vie et de la vie en abondance? Depuis déjà passablement de temps, nous parlons sur tous ces principes de la loi et de la grâce. Et nous avons bien décrit que la loi est nécessaire. Mais sans la grâce, la loi ne peut que détruire. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans le monde. Mais Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il l'a accompli lui-même en premier, dans sa vie, et dans la démonstration de l'évangile qu'il a apporté. Mais, il a ajouté la grâce, qui est le produit de l'amour. De cet amour immense qu'il nous a manifesté à nous, rebelles. De cet amour immense, lorsqu'il a donné sa vie pour des rebelles et des méchants. Encore donnerait-on sa vie pour un ami, un homme de bien. Mais pour des rebelles, qui donnerait sa vie? Lui l'a fait afin de s'acquérir un peuple, afin de s'acquérir un troupeau. Faites-vous partie de ce troupeau. Dans ces commandements de l'Ancien Testament qui sont toujours et qui ont toujours gardé leur force et leur autorité jusqu'à ce jour, dans ces commandements de l'Ancien Testament que nous essayons de sonder quelque peu pendant toutes ces semaines, il y a celui-ci, tu ne voleras point. Nous avons vu que d'abord, dans un premier temps, Dieu s'occupe de la vie des relations de l'homme de façon verticale. D'abord, Dieu. D'abord, nos relations avec Dieu. Conséquence, nos relations avec notre prochain, relations horizontales. Nous ne pouvons avoir des relations normales avec notre prochain si nous n'avons pas des relations normales avec notre Créateur en premier. Nous pourrons faire 1000 réformes, réformes sociales, réformes politiques, réformes religieuse, réforme, tout ce que vous voulez. Mais tant que la relation verticale n'a pas sa place, les relations horizontales ne progresseront jamais. Dieu s'occupe de la vie sociale des hommes. Et à partir du verset 12 dans Exode 20, il s'occupe du social, de la famille, du comportement dans la société. D'abord, il commence avec ses relations verticales pour continuer avec les relations horizontales, conséquences des relations verticales. Il ne suffit pas seulement d'adorer Dieu, mais il faut que notre vie de tous les jours soit influencée par notre vie spirituelle. Voilà. Notre vie spirituelle, autrement dit notre homme intérieur, autrement dit notre homme né de nouveau, autrement dit notre nouvelle créature, autrement dit cet homme changé, va influencer l'homme extérieur. Voilà. Notre vie spirituelle dans l'homme intérieur va changer les relations horizontales les uns avec les autres. Le social n'est jamais bon ni durable quand Dieu est mis de côté. Vous pouvez le répéter, le voir et le répéter mille fois. Combien d'œuvres sociales, d'organisations ONG, de choses extraordinaires, de fonds qui ont été débloqués pour des actions sociales, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de toutes sortes de choses, des sommes énormes, avec des plans magnifiques, des choses excellentes. Excellentes, qui n'ont abouti à rien. Au début, grande inauguration, on coupe le ruban. Vous connaissez ça, hein? Discours de ceci, discours de cela, paroles magnifiques. Et voilà. Et on commence, et c'est magnifique. Mais attendez, après une année, deux ans, trois ans, cinq ans, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Que de gaspillage! Tout le monde cherche à tirer la couverture de son côté. Tout le monde cherche à avoir un bénéfice de son côté. La cupidité est dans le cœur de l'homme. La cupidité. Et alors, on manifeste cette cupidité parce que cupidité, trop souvent, égale vol. Pourquoi cela? Si le social ne réussit pas, s'il faut toujours recommencer, et encore recommencer, et encore recommencer, c'est que ce n'est pas durable parce que Dieu est mis de côté. Des beaux programmes, de belles idées, excellents, mais Dieu n'y trouve pas sa place. Et l'homme est ce qu'il est, il est magouilleur. Il est voleur, il est menteur, il est profiteur. D'abord, les relations avec Dieu. Et après, les relations avec son prochain. Oh, frères et sœurs, qui n'a pas été victime de vol ? De nos jours. Quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui vous est cher, quelque chose qui a une valeur pas tellement marchande, pas tellement économique, mais disons une valeur morale, familiale, ça disparaît. C'est parti. Quelque chose aussi d'une réelle valeur, une valeur marchande, ça disparaît. C'est parti. Quel est le sentiment que vous éprouvez alors? Cette chose qui était à vous, légalement à vous, qui vous appartenait, un outil de travail, ou un outil, ou quelque chose qui vous aide dans la vie, ou que sais-je? Et subitement, voilà, c'est parti, c'est parti. Quel sentiment de tristesse et de rage pas vrai, de rage, je le dis bien. Lorsque vous constatez qu'on est entré chez vous, peut-être, par infraction, et que tout a été renversé, bouleversé, et votre maison, votre domicile a été violé. Quel sentiment que de voir et de constater que des étrangers que vous ne connaissez pas ont violé votre domicile. Que dire des vols à main armée, des pillages. Il n'y a pas bien longtemps de cela, une ou deux semaines, je ne sais pas exactement, de nos pasteurs que nous connaissons bien, des hommes armés sont rentrés chez lui. Ils ont frappé à la fenêtre. Ouvre-nous, autrement tire. Ils ont ouvert la porte. Asseyez-vous là. Ils ont passé à travers la maison. Ah, tu es pasteur, toi. Alors, on sait que les pasteurs ont beaucoup d'argent. Donne l'argent. Il dit, non, mon argent, l'argent de l'église, on ne le tient pas ici. C'est pas moi, on ne fait pas comme les autres. Oh, tel autre pasteur a plein d'argent chez lui. Ah oui, mais chez nous, il n'y en a pas. L'argent, on ne le garde pas chez nous à la maison. Mais j'ai une enveloppe ici de quelqu'un qui m'a donné un peu d'argent il n'y a pas si longtemps. Prenez-le. Ah bon? Ils sont allés, ils ont pris ceci, ils ont pris cela. Après ça, il dit, bon, tu es pasteur, alors prie pour nous. Ces hommes étaient des militaires. Et ils ont dit, oh, qu'est-ce que tu veux, faut nous pardonner. On a tellement de besoins. Eh oui, ce sont les choses que nous voyons aujourd'hui, et je n'ai pas peur de le dire. Et je prie que ces hommes se repentent. M'entendez-vous, vous qui l'avez fait? Nous n'allons pas porter plainte contre vous, mais nous allons prier avec vous pour que vous vous repentiez. Que dire des pillages que nous avons connus? Que dire de cela? Lorsque vos biens sont pris par des étrangers qui rentrent en masse dans votre maison, et vous ne pouvez plus rien faire, plus rien. On prend vos souliers, on prend vos vêtements. Si c'est la nuit, vous restez qu'avec le pyjama. Aucun recours. Aucun. Oh, je me souviens en novembre 1991. Octobre, ces pillages. Je me souviens qu'en novembre, on nous a... C'est le seul vol que j'ai eu gratuit en Europe. Pensez donc. Le seul vol. Nous avons traversé sur Brazzaville. J'ai vu ces grands dortoirs avec des lits de camp de l'armée mis là et plein de malheureux, ils n'avaient plus rien, il y en avait qui avec leur pyjama sur eux, d'autres étaient pieds nus et tout ça, les visages tristes, déçus, complètement cassés. On nous a mis sur un avion, un vol gratuit. Nous sommes arrivés à Bruxelles, on nous a mis dans un camp, dans un hôpital militaire, pour vérifier les identités. Une quantité qui avait plus de pièces d'identité, plus rien. Par la grâce de Dieu, nous avions nos pièces. Et puis, au soulagement, deux de nos filles nous attendaient avec des grands bouquets de fleurs. Quand on les a vues, on s'est mis à pleurer. Et puis, on est tout de suite parti, on nous a laissé partir. Je vous raconte ça, mais vous-même, vous pouvez vous raconter quoi? Je sais bien que vous avez plein d'histoires. On tire dans les rues. On tue ici et là. Pourquoi? Si vous résistez, eh bien, votre cadavre est là sur la route, n'est-ce pas? Pourquoi? Voler! Un vol organisé, si je puis dire. Un vol couvert. Un vol tacitement accepté, un vol qu'on n'essaye même pas d'arrêter. On appelle ça pillage. Quand il y a pillage, bon, plus personne, il n'y a plus d'autorité, plus rien, plus personne. On est là, victime. Dieu a dit, tu ne voleras point. Que dire des fausses factures? Les factures qui ne représentent rien. La tractation n'a pas été faite, mais l'argent le met dans sa poche. Que dire de ces factures gonflées que le patron doit payer? Et la différence se partage entre le gérant et le commissionnaire. Vous connaissez ça? Bon, je marque tant sur la facture. Le prix réel est tant, mais je marque tant sur la facture. Et on se partage la différence. Magouilleur et voleur! Tout ce que tu mérites, c'est la prison. Il y a combien de gens potentiellement prisonniers ici? Levez la main. Les fonds publics qui sont détournés pour soi-même, c'est toujours pour soi-même. C'est toujours pour moi, moi. Cupidité, égoïsme. Les fonds publics qui sont détournés. Au lieu d'être utilisés pour le bien public selon leur destination première. La liste est longue. Quel sentiment éprouvez-vous lorsque quelqu'un a pris ce qui vous appartient légalement, ce pourquoi vous avez transpiré, vous avez travaillé, vous avez mis de côté, vous avez honnêtement acquis. Si c'est malhonnête, eh bien, ça m'est égal. De toute façon, ça ne vous appartient pas. Mais ce qui, en particulier, mais qui était donné pour le bien public, qui doit être administré par des personnes, mais ces personnes considèrent cela comme un bien personnel. C'est du vol. Tu ne voleras point, est-il dit. Ou alors, peut-être, souhaitez-vous faire la même chose pour vous enrichir rapidement. Souhaitez-vous pouvoir avoir telle place, tel poste de responsabilité, tel lieu où de l'argent vient. De l'argent vient pour des projets. Souhaitez-vous d'avoir cette place pour pouvoir mettre une bonne partie de côté pour vous-même? Quels sont les sentiments dans votre cœur à ce sujet? Certains se disent, ceux qui m'ont précédé en ont profité. Maintenant, c'est mon tour. Donc, tu es la même chose que ceux qui t'ont précédé. Pas de différence. Pas de différence. Parce qu'eux ont péché, toi tu veux pécher aussi. Parce qu'eux ont détruit, toi tu veux détruire aussi. Parce qu'eux ont été dans la pourriture, toi tu veux aussi être dans la pourriture. Bien sûr, tu ne considères pas que c'est la pourriture, mais ce que tu oublies, c'est que tes actions portent à conséquence sur les autres. Et quand je parle des autres, je parle de milliers de personnes. Il a profité, je veux profiter. Rien ne changera donc alors. Rien, tout est vain alors. Pourquoi tant de discours? Pourquoi tant de séminaires? Pourquoi tant de symposiums et de tous ces noms savants? Moi, j'y crois plus à cela. Je n'y crois plus. Frères et sœurs, pourquoi perdre du temps encore? Organiser et réorganiser et re-organiser et jusqu'à quand? Sans rien faire? Pourquoi on n'a pas d'argent? Pourquoi on n'a pas d'argent? Où est-il? Dans les Proverbes, au chapitre 29, verset 24, il est dit, « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. » Partager avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Voilà. Quand tu veux faire la même chose que celui qui t'a précédé, tu partages sa cupidité avec lui. Ta propre cupidité, sa propre cupidité. Vous partagez. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Oh, peut-être toi, tu es net de tout, d'accord? Mais tu profites du vol de l'autre. Et au lieu de le dénoncer, au lieu de lui dire c'est mal, au lieu de mettre les choses sur la table, au lieu de te séparer du magouilleur, tu restes là, donc tu approuves son acte. Tu ne voleras pas. Ces commandements sont choquants, et c'est pourquoi je vous choque, enfin. Il y a des gens qui réagissent au sujet de ce que nous prêchons ici. Particulièrement, la semaine passée, concernant la polygamie. Hein? Ça ne plaît pas à tout le monde, peu importe. Mais voilà ce que la Bible dit. Tu ne voleras point. Bien, tellement de gens ont la pensée complètement tordue. Ils ne savent plus ce que c'est que de voler, tellement ils ont été eux-mêmes dans la magouille. Quand on leur parle de ça, ils ouvrent des grands yeux. Et ils s'étonnent. Tu ne voleras pas. Combien ce comportement est commun dans ce monde qui nous entoure. Pour beaucoup, cela est une chose normale. Profiter. C'est une chose normale. Non, ce n'est pas normal de profiter. Ce n'est pas normal, en parlant d'une petite chose toute simple, mais qu'on voit trop souvent. Ce n'est pas normal quand on a un repas ensemble et qu'on mange tous ensemble. Là, regardez les gens comment ils font. Vous en verrez qu'ils veulent profiter. Ils vont prendre les choses qui sont là, mettre ça dans le sac, mettre ça dans un paquet, sans même demander à personne. Profiter. Là, vous voyez le cœur des gens. Profiter. Vous voyez des gens qui se servent des assiettes comme ça. Ils ne sont même pas polis. Ça, c'est de l'impolitesse. Ça, c'est de la grossièreté. Vous êtes invité et vous vous tenez. Il est mieux qu'on vous dise, mais servez-vous encore, vous n'avez pas pris beaucoup. Voilà, ça c'est la politesse. Mais ils sont là. Profitez. En tout cas, ne faites pas comme cela, parce que moi je vous regarde quand vous êtes à table. Je ne vais rien dire, mais je vais penser. Parce que le profiteur qui profite de cette façon va profiter la même chose quand il tiendra la caisse. Combien d'hommes et de femmes qui tiennent des caisses quelque part veulent profiter de la caisse? Et ils regardent ça comme un bien personnel. C'est un véritable virus, vous m'entendez? Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter d'avoir une somme d'argent dans la main sans profiter. Ce n'est pas à eux. Cela a été donné pour un but. Moi, j'ai connu des jeunes frères dans le ministère qui se sont lancés dans des trucs incroyables. Des trucs incroyables. Et ils ont voulu profiter. Une somme leur avait été confiée pour faire quelque chose de spécial, quelque part. Et ils ont profité. Ah, mais je voulais faire valoir ça. Mais personne ne t'a dit que tu pouvais faire valoir l'argent des autres. Personne. Combien de gens n'ai-je pas vu qui étaient dans les magouilles, désespérés, devant le tribunal. Oh, je vais être convoqué. Mais pourquoi, pourquoi? Ah, ma sœur, ou mon frère, ou cette sœur, ou ce frère m'a confié une somme d'argent ou de la marchandise. J'ai vendu, mais on m'a volé, mais ceci. Oh, il y a toutes sortes d'explications. Alors maintenant, je n'ai pas pu repayer. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je dois croire dans ces histoires-là? Quoi? On veut profiter. Eh bien, le profiteur, c'est un voleur. Voilà ce que c'est. Vous m'entendez? Le profiteur, c'est un voleur. Où est l'honnêteté? L'honnêteté dans la parole, l'honnêteté dans l'engagement, l'honnêteté. Des fois, j'ai l'impression de prêcher dans le désert, comme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que je ne vois pas. Mais Dieu voit, c'est tout. Dieu voit s'il y a des changements, Dieu voit s'il y a des repentances, Dieu voit s'il y a... Certaines fois, je me dis, mais tu prêches, mais quel est le changement? Mais je ne le vois pas, parce que je suis un homme comme vous, c'est tout. Mais lui, il voit. Et je crois que sa parole, et je sais que sa parole est puissante. Elle est puissante et qu'elle secoue les consciences pour changer. Pour beaucoup, cela est une chose normale que de profiter. Tu possèdes ce que je n'ai pas, j'en ai besoin, donc je le prends. Voilà la philosophie d'aujourd'hui. Et si on réussit, pourquoi s'arrêter? Si je ne suis pas pris, c'est que je suis pas voleur. On considère voleur que celui qui est surpris. C'est pas vrai? Celui qui est découvert, lui, il est voleur. Tout le monde va crier. Mais combien de fois n'avons-nous pas vu, dans bien des années passées, des gens que tout le monde a su qui ont volé? On fait un grand jugement. Ils vont en prison pour 3-4 semaines. Ils sont libérés, mais ils restent avec l'argent qu'ils ont volé. Alors, à ce moment-là, on veut bien faire 15 jours de prison pour garder son 600 000 dollars ou son million ou son 2 millions de dollars. Ça vaut bien la peine, pas vrai? C'est pourquoi les lois n'ont plus de force. C'est pourquoi il n'y a plus de crainte dans les corps. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Combien de fois n'avons-nous pas acheté un produit surtaxé? Encore un autre genre de vol. Alors que sa qualité est inférieure. Et nous pensions faire une affaire. Tout le monde se méfie. Et moi, je suis parmi ceux qui sont devenus très méfiants. Très méfiants. Je regrette. Des fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à notre place? Patron, achète ça, c'est bon, bon prix. Combien? Ah, je veux pas. Mais c'est bon prix, patron. Peut-être. J'ai pas confiance. Au revoir. Ah, patron. Et il coupe la moitié déjà. Ah bon? L'autre, c'était bon prix et maintenant tu coupes la moitié? Comment peux-tu croire que je vais croire en toi? Oh, regarde cette montre, c'est une Rolex première qualité. Elle est formidable. Oh, je te la laisse pour 500 dollars. Rolex, ça coûte beaucoup plus que ça, mais enfin. Il sait que Rolex est cher. Non, ça ne m'intéresse pas, je veux une montre. Oh, prends ça, il me poursuit partout. À mesure qu'il me poursuit, ça descend. Pour finir, il va me demander peut-être 5 000 francs congolais. Oh, je dis, si c'est le prix, eh bien, c'est pas une Rolex, c'est de la machination, va avec ta montre. Parce qu'une Rolex, on ne peut pas la vendre à ce prix-là, qui que ce soit. Voilà le monde dans lequel nous vivons, c'est pas vrai, tous les jours. Et Dieu a dit, tu ne voleras point. On est trompé, continuellement par des pratiques frauduleuses. Et bien des fois, on se laisse prendre. Et qui est victime? Bien souvent, ce sont les faibles qui sont victimes des forts, qui profitent de leur faiblesse pour les dérober. C'est ce qu'on voit sur les marchés internationaux et l'intérêt des grosses maisons et des gros producteurs. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas dire là-dessus? Les faibles sont victimes des forts, qui profitent de leur faiblesse pour les dépouiller. Ce huitième commandement est destiné à protéger les petits, à protéger les faibles, ceux qui n'ont point d'appui. Il est là pour empêcher les forts de profiter du faible. Le vol est un acte qui détruit la vie. Dans la communauté, dans la nation, dans les affaires. Et qui amène l'anarchie. Le vol, c'est de l'anarchie. Et si on n'y met pas de frein, ça devient le chaos. Il y a du vol plus ou moins légalisé, nous le savons. Il y a du vol qui vient de l'autre qui veut faire un profit sur une marchandise de mauvaise qualité. Il faut contrôler encore. Mais contrôler justement, non pas des contrôleurs qui viennent là avec l'appui de la loi et 1000 lettres de justification et qui prétendent toutes sortes de choses simplement pour avoir l'argent, pour mettre dans leur poche. Qui cherchent par tous les moyens à vous mettre en porte-à-faux pour vous accuser, pour payer une amende et l'amende va dans leur poche. Alors ils vont revenir 20 fois pour chercher quelque part une erreur. Et vous taxez, et vous surtaxez. Moi, je sais. Nous nous efforçons de faire tout légalement, dans notre bureau, de payer les taxes dues, les impôts dus. Mais je vous assure que continuellement, ils sont là. Oh, bien sûr, et ils cherchent à trouver une faute quelque part. Parce que là, il y aura l'amende et cette amende va aller dans leur poche. Voleurs! Comme ces gens qui venaient l'autre jour nous disputer parce que on avait demandé à quelqu'un de nettoyer, de faire passer des insecticides pour désinsecticiser la parcelle ici contre les moustiques. Et ils ont dit, c'est à nous à faire ça, paye une amende parce que toi tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai dit, comment nous n'avons pas le droit de choisir quelqu'un pour nous nettoyer ça, il faut que ce soit vous, et à cause de cela il faut faire une amende? Non! C'est du vol! Quand est-ce que nous avons donc changé, essayé d'avoir et de racler sur les gens qui veulent marcher encore droitement? Alors que la route ici est une infection continuelle. Alors que partout ici c'est sale et des infections. Non, c'est ici qu'on vient voir et vouloir mettre des amendes. Vous voulez le savoir? Je vous le dis. L'infection des ordures, ce n'est pas dans cette parcelle. C'est juste là sur ce chemin. C'est juste là, là-bas derrière. Regardez les immondices. Mais oui, mais tout cela rentre dans le cadre global qui consiste à profiter. Oh, je sais, les salaires sont bas. Oh, je sais, c'est vrai, les salaires sont bas. C'est une misère et je pleure quand je vois certains salaires ici. Et on s'en aperçoit bien par la chute de nos offrandes dans l'église. La chute, je vous parle de la vérité, frères et sœurs. Je pleure avec vous. Nous ne sommes pas des gens à mettre pression sur vous. Et nous ne voulons pas mettre pression sur vous. Vous êtes plein de pression extérieure. Et ici, vous devez être heureux de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, afin de y obéir. Je sais qu'il y a des pressions de toutes sortes, telles que les salaires sont terriblement bas. Mais ceci ne justifie pas le vol et le mensonge. Si vous voulez que les choses changent, c'est ça qu'il faut changer avant que les salaires changent. Vous m'entendez? Peut-être que tout ce qui nous arrive est un jugement sur nous parce que nous avons prétendu être chrétiens et en étant chrétiens, nous étions les chefs magouilleurs. Mais Dieu veut protéger les petits. Dieu veut protéger les faibles. Ceux qui n'ont pas d'appui. Il est là pour empêcher le fort de profiter du faible. Le vol est un acte qui détruit la vie, qui détruit l'harmonie, qui détruit la stabilité du commerce, qui détruit la stabilité des affaires et qui détruit l'équilibre local, social, local. L'équilibre social est détruit par le vol. Mais combien d'églises qui sont détruites par le vol? Oui, je le dis bien. Pas de compte. Pas de comptabilité. Donnez votre argent. Dieu va vous bénir. Ça ne vous regarde pas ce qu'on fait avec votre argent. C'est pas vrai. J'ai entendu dire des gens, même sur les médias, ça ne regarde pas ce qu'on fait avec vos dîmes et vos offrandes. Une fois que vous avez donné, c'est terminé. Votre engagement est terminé. Moi, je peux faire ce que je veux avec. Voilà. Eh bien, non! Vous devez rendre compte à vos gens. Vous devez rendre compte à ceux qui donnent. Vous devez dire ce que vous faites avec. Vous devez chercher la crédibilité. Vous devez chercher la confiance. De telle façon que quand quelqu'un donne de l'argent, il sait à l'avance le salaire du pasteur est de temps. Les dépenses sont de temps. Les investissements sont de temps. Tous les membres de l'Église ont le droit de le savoir. Vous m'entendez? Toi, pasteur, tu as des comptes à rendre. Vous croyez que moi, je n'ai pas de comptes à rendre à ceux qui me soutiennent? Eh bien, mes amis, ils sont exigeants. Et je me soumets à leurs exigences. Mais j'ai connu tellement de pasteurs qui faisaient n'importe quoi avec l'argent de l'Église. Et pour finir, les chrétiens perdent confiance, ils ne donnent plus. Alors, ils disent après aux chrétiens, « Mais pourquoi vous donnez plus? Oh, pasteur, les chrétiens ne nous donnent plus. » Ah bon? Ils ne donnent plus. À qui la faute? Si nous voulons l'harmonie sociale, si nous voulons l'entente et l'équilibre dans l'économie, nous dépendons de ce commandement. Tu ne voleras pas. l'économie du Congo n'ira pas mieux si nous continuons dans la magouille, dans les détournements et dans le vol, sans crédibilité, sans honnêteté. Oh, que Dieu nous aide à être une église honnête, à être des membres honnêtes, à être des hommes et des femmes honnêtes. Je sens bien que quand je prêche comme ça, il y en a qui vont peut-être être mécontents. Mais qu'on me prouve que ce que je dis est faux. Ça, c'est le commandement de Dieu, ce n'est pas le mien. Tu ne voleras pas. Baissons la tête. Nous sommes devant toi, Seigneur, et certaines fois, ta parole, Seigneur, elle nous choque, elle est dure, elle est incisive, et même alors que je la prêche et que je l'annonce, certaines fois, une crainte vient dans mon cœur. Et pourtant, Seigneur, tu n'as pas demandé à tes serviteurs de prêcher de façon à plaire à ceux qui les écoutent, mais tu les as appelés à réveiller les consciences et appeler les hommes et les femmes à l'honnêteté, à l'honnêteté. Je ne veux pas terminer cette réunion, ce culte ce matin sans faire un appel à vous tous qui êtes ici. Peut-être que cette parole vous a touché parce que vous avez, j'emploierai le mot, vous avez volé d'une façon ou d'une autre. Profit illicite, gain illicite. Vous avez profité de l'autre. Vous avez abusé de l'autre. Peut-être que ce matin vous sentez votre conscience être ébranlée. Vous voulez vous réparer. Réparer. Demandez pardon à Dieu. Parce que voilà, vous avez joui de quelque chose qui n'est pas à vous. Si tel est le cas, levez-vous où vous êtes. Levez-vous où vous êtes. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Merci à ceux-ci qui ont le courage de se lever. Vous savez, il ne peut jamais y avoir pardon pour quel que soit le péché s'il n'y a pas confession et s'il n'y a pas humiliation. Et le fait de se lever, c'est déjà une humiliation. Et ce message, cette parole s'adresse à tous sans exception. Vous avez profité de ce qui ne vous appartenait pas. Vous n'avez pas donné des comptes ou vous avez falsifié des comptes. Dans un domaine ou dans un autre, Dieu le voit et Dieu le connaît. Et par là, vous avez désobéi au commandement, ce commandement du Dieu vivant, duquel nous avons chanté tout à l'heure, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Frères et sœurs, je vous en supplie au nom de Jésus, mettez votre vie en règle. C'est une humiliation que de le reconnaître publiquement ainsi. Mais ceci fait partie du processus, si je puis dire, de la repentance, du salut, de la réconciliation. Seigneur, je t'apporte chacune de ces personnes à travers toute cette salle, sur les balcons, par terre, partout. Et je sais qu'il y en a d'autres qui devraient se lever, mais ils n'osent pas. Seigneur, je te prie dans ta miséricorde, Seigneur, de les voir, de les toucher, de leur pardonner, et même chaque fois qu'il est possible de restituer ce qu'ils ont pris et qui ne leur appartient pas. Donne-leur le courage de confesser et d'abandonner, Seigneur, s'il te plaît, afin qu'il y ait un renouveau dans leur vie et dans leur marche avec toi. Je sais, Seigneur, que tu entends. Je sais, Seigneur, que dans ta miséricorde, tu veux effacer les péchés et tu veux oublier et tu veux laisser loin derrière toi. Oh Jésus, Jésus, nous voulons être des nouvelles créatures. Nous voulons être dignes du royaume des cieux. Nous voulons faire partie de ton épouse. Nous voulons être membres de ton Église. Ton Église est sainte, vraie, juste. Nous avons besoin, tant besoin de ton pardon, Seigneur. Et celui qui te le demande et qui confesse son péché, Seigneur, tu l'effaces. Reprenez vos places. Beaucoup d'entre vous qui vous êtes levés, si vous voulez un entretien après ce culte, nos conseillers sont dans le jardin pour vous recevoir. Seigneur Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.